Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique La Minute du CIDFF sur 48 FM du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et la semaine dernière, enfin il y a deux semaines plutôt, nous avons parlé des femmes et du cinéma. Aujourd'hui, élection oblige, ce sera les femmes en politique et c'est Valérie Lucas, directrice du CIDIF, qui nous parle. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors les femmes en politique, déjà pour commencer à parler de ça, on peut peut-être faire un état des lieux, comment se passe l'accès des femmes dans ce monde qu'est la politique ?
Alors oui, l'accès des femmes en politique en France, c'est relativement récent. Hein. On connaît tous les dates, toutes et tous les dates de 1944 et 1945, date à laquelle les femmes ont eu le droit de vote et sont devenues éligibles. Certaines déjà étaient entrées en politique en 1936 en tant que secrétaire d'État. Hein. Trois femmes étaient rentrées. Mais les femmes en France n'ont accédé à la politique au sens du droit de vote et d'éligibilité qu'en 1944, alors que à l'issue de la Première Guerre mondiale, déjà les femmes avaient le droit de voter, par exemple, au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, etc. Donc je pense qu'on paye un petit peu ce retard. Et puis, il faudra attendre, même si on a des femmes qui arrivent au gouvernement, qui seront peut-être marquantes, il faudra attendre les lois sur la parité, la révision constitutionnelle en 1999, donc qui permet l'établissement des quotas en faveur des femmes. Donc il faudra attendre cette notion de quotas et puis la réglementation. Les lois de 2000 sur la parité en politique, donc qui garantissent l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, puis celle de 2007 par laquelle les élections cantonales et départementales en fait imposent la parité. Et puis en 2013, c'est vrai que je fais un focus un peu sur les élections départementales et cantonales parce que c'est des élections qui sont proches de nous. 2013, si vous vous rappelez, on aura la loi qui permet que les conseillers départementaux, en fait, soient élus par un scrutin binominal qui nous impose, en fait, d'avoir un candidat homme et un candidat femme. Donc on a tous constaté les résultats, notamment sur notre département, puisque donc la parité existe et qu'on a une femme présidente.
Voilà, on a un département atypique. Faut le préciser. Même si là, on avait une préfète qui est partie, on a un nouveau préfet. Ça. Sur les postes clés, ce sont des femmes qui sont à la tête du département.
C'est vrai que si on se fait un focus départemental, on a une présidente du département, on a une conseillère régionale sur le seul poste, on a une sénatrice, on a les communes, les grosses communes, les gros bourgs, Florac, Saint-Chély et Marvejols qui sont pilotés par des mairesses. Voilà.
On a une présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, une présidente de la Chambre d'agriculture aussi.
C'est ça. Alors,
c'est pas un peu un trompe-l'œil aussi ?
Ça peut être un trompe-l'œil parce que c'est vrai qu'il faudrait regarder sur nos petites communes rurales. Hein, j'ai pas pris le temps de le faire et puis j'avais pas forcément les chiffres. Dans les petites communes, est-ce qu'on a beaucoup de mairesses ? Quand elles sont adjointes, adjointes de quoi ? Est-ce qu'elles sont à la petite enfance ? Est-ce qu'elles sont à la solidarité, au social ? Est-ce qu'elles ont des postes aux finances ? Est-ce qu'elles ont des postes sur tout ce qui est ingénierie, route, etc., numérique. Geneviève Tapier disait que ces questions de parité et d'accès, c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, en fait, parce qu'on interroge la place des femmes en politique.
Et si on prend un pourcentage par rapport à l'ensemble des élus, que ce soit du département de la Lozère ou en France, j'imagine que y a vraiment des disparités entre hommes et femmes.
Tout à fait, parce que malgré donc ces lois sur la parité, malgré la grande cause nationale, hein, le quinquennat Macron, c'était quand même l'égalité femmes-hommes, grande cause nationale. En 2022, on constate que les femmes sont largement sous-représentées en politique. On a 39% des femmes qui sont députées, 33% qui sont sénatrices. Enfin, 33% des sénateurs, sénatrices qui sont femmes. 4 femmes présidentes de région, 20% sont des maires et 20% sont des présidentes de département. Donc on parle de trompe-l'œil parce que on constate que les hommes ont du mal à partager le pouvoir en politique et que quand on est sur des hautes fonctions, les présidences, les gros dossiers, en fait, les femmes disparaissent.
On le voit d'ailleurs à la tête de l'État, pas de femmes qui ont encore été présidentes de la République en France. Premier ministre, il n'y en a eu qu'une.
Une femme, 10 mois. Et effectivement, l'expérience n'a pas été renouvelée, alors qu'on a eu d'autres États comme l'Allemagne, l'Angleterre, où les femmes ont été aux hautes sphères du pouvoir.
Alors justement, est-ce qu'on peut parler de ce traitement des femmes en politique, notamment en politique nationale? On se rappelle quelques faits divers quand même qui viennent à l'esprit, qui ont été marquants. Je pense bien sûr à la robe de Cécile Duflot à l'Assemblée nationale, moquée par les hommes, les députés parlementaires masculins. Comment on peut juger ce traitement des femmes en politique?
Alors c'est vrai que c'est comment on peut juger ou est-ce que s'interroger sur pourquoi en fait les femmes ne sont pas aux hautes sphères du pouvoir. Effectivement, est-ce que c'est les hommes qui ne partagent pas le pouvoir? Est-ce que ce sont des comportements? Est-ce qu'on est sur effectivement notre construction sociale basée sur la domination, ce qu'on appelle la domination masculine? Est-ce que le fait d'entrer en politique fait peur? Est-ce que c'est un monde violent, etc. C'est vrai qu'on a vu des femmes chahutées. Edith Cresson elle-même avait quand même été malmenée. Quand tu parles de Cécile Duflot, effectivement, elle était dans un temps de questions-réponses devant l'Assemblée. Elle était à peine arrivée à l'endroit des questions-réponses pour répondre. Et elle était déjà sifflée parce qu'elle était en robe, donc sur une robe qui était tout à fait... on pourrait dire présentable. Et c'est vrai que on a constaté une certaine évolution dans les apparences des femmes en politique. Les premières femmes ministres s'habillaient par exemple en tailleur avec des jupes longues. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu un certain conformisme où les femmes ont choisi le tailleur sombre, pantalon, etc. Il y avait Michèle Alliot-Marie dans les années 70 qui était pas élue mais qui devait rentrer à l'Assemblée nationale parce que elle avait des fonctions qui faisaient qu'elle devait participer à une session à l'Assemblée nationale, s'était fait interdire l'entrée à l'Assemblée parce qu'elle avait un pantalon par l'huissier de l'Assemblée. Et là, elle avait rétorqué, si vous voulez, je l'enlève et ça sera plus rapide. Et du coup, il y a eu un changement dans ces années-là où les femmes, en fait, se sont habillées un peu comme les hommes, en fait. Et puis, dans les années 90, il y a eu un certain tournant. On se rappelle tous du tailleur rose de Roselyne Bachelot, qui, sur une photo du premier gouvernement Raffarin, faisait flash. On ne la voyait qu'elle. Et petit à petit, en fait, les femmes ont osé s'habiller différemment pour marquer leur présence, puisque finalement, ce qui était marquant sur cette photo, c'est que Roselyne Bachelot, quel que soit son bord politique, avait osé. Et du coup, dans ce monde masculin, c'était sacrément osé, justement. Elle a été suivie par la suite et il y a eu une certaine libéralisation, on va dire, dans les tenues des femmes. Mais ceci dit, elles subissent toujours, on l'a vu avec Cécile Duflot, les colibets, les invectives, les injures. Elles sont toujours jugées, en fait, sur leurs apparences et non pas sur le discours.
On voit une élection qui va peut-être faire bouger les choses, mais peut-être pas aussi. 3 femmes seulement candidates sur 12.
4 femmes, ouais.
4 femmes sur 12.
4 femmes candidates sur 12. Donc là aussi, ça questionne. Est-ce que les partis ont poussé les femmes? Est-ce que les partis ont bien respecté les questions de parité? Est-ce que certains ont préféré payer des amendes plutôt que de présenter des femmes à certaines fonctions? Voilà, je peux pas y répondre, mais ça mériterait de s'y pencher.
Voilà, il y a les élections législatives. Après, on verra justement les partis s'y présentent autant de femmes que d'hommes ou pas. Mais justement, pour cette campagne, le réseau national des CIDFF lance une campagne de sensibilisation. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, l'idée de la fédération, de notre tête de réseau, la Fédération nationale des CIDFF, c'est d'encourager chaque électeur, chaque électrice à observer les programmes de tous les candidats et de voir comment les candidats se comportent par rapport aux droits des femmes. Est-ce que, sur tout ce qui est question de droit du travail, précarité économique, monoparentalité, violence sexiste et sexuelle, cyberviolence, etc., les candidats amènent des réponses.
Une série d'affiches hein, qui va être lancée sur les réseaux sociaux et également un hashtag.
Oui, donc on a plusieurs affiches qui interpellent sur les sujets que je vous ai cités. Vous pouvez les voir sur notre site, sur lozercidff.info.
Voilà. Du coup, on parle de la politique. Est-ce qu'on peut parler de violence sexiste dans ce monde politique ?
Assurément, on peut en parler. Donc, les violences, il faut savoir qu'elles commencent dès l'injure, dès l'invective, sur les questions de respect. Hein. On a cité tout à l'heure la robe de Cécile Duflo. C'était une réelle violence. Mais j'ai relevé des propos de Jean-Luc Mélenchon en 2007 qui disait que l'élection présidentielle face à Ségolène Royal n'était pas un concours de beauté. Voilà. Donc, on avait aussi relevé une députée, Barbara Pompi, députée Europe Écologie, qui avait été gratifiée de Barbie fait de la politique. Voilà, donc c'est quand même un monde violent. On a eu une tribune dans Le Monde en 2021 où on a 285 femmes qui travaillent en politique, qui sont universitaires et qui ont dénoncé en fait ces violences sexuelles et sexistes dans la vie politique. Et elles demandaient que le monde politique prenne enfin compte du mouvement hashtag MeToo. Donc je pense que leur expérience parle et répond à ta question. Là aussi, ces femmes demandaient, dans les perspectives de la campagne 2022, que ne soient pas investies des personnes qui étaient mises en cause pour des violences sexistes et sexuelles. Bon, on se rappelle tous du début de mandat d'Emmanuel Macron avec certains ministres.
Voilà. Et si c'était que ça, mais on se rappelle aussi des mandats des autres gouvernements avec beaucoup d'affaires. Ça sera peut-être l'occasion d'une chronique à part entière, parce que malheureusement, la violence sexiste dans le monde politique, il y en a pléthore.
Oui, il y en a pléthore.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci.